Nous allons commencer sans le troisième membre du jury présent, qui se fait attendre comme la diva qu'elle l'est. Donc nous vous souhaitons la bienvenue à la remise des prix du 29e prix Julia Verlanger, même si c'est la 28e année. Julia Verlanger, donc, auteur... D'abord sous le nom de Gilles Thomas, puis sous son propre nom, de nombreux ouvrages au fleuve noir essentiellement. Ça marche. Voilà, les informations sont là. Donc le prix a été créé par le veuf de Julia Verlanger, qui aimait d'ailleurs à se faire appeler Monsieur Julia Verlanger, préférant oublier son nom patrimonial et prendre celui de sa femme, parce qu'il était aussi fier d'elle qu'on peut en être. Et donc, c'est la Fondation de France qui nous permet de le remettre chaque année, et surtout d'offrir à l'auteur lauréat une somme conséquente. Pour des romans de science-fiction, de fantasy, de fantastique, mais surtout d'aventure. Et voilà donc la sélection 2014. Vous avez donc Peter Hamilton pour La Grande Route du Nord, Andreas Eschbach pour Time Out, Terry Pratchett et Stephen Baxter pour La Longue Route, Régis Godin pour La Longue Terre, oui. Régis Godin pour Le Sang des Sept Rois, Karim Berouka pour Fée, Weed et Guillotine, et Olivier Paquet pour L'Esprit du Melkin. Nous allons commencer donc par vous lire, un petit extrait du roman de Karim Berouka, Fée, Weed et Guillotine, paru aux éditions ActuSF. Mais pour ça, j'ai besoin de mes lunettes. Châtain clair, des yeux verts en amande et un sourire malicieux qui n'arrive pas à effacer la surprise qui vient de s'afficher sur son visage. Même si on l'avait prévenu, le monde des hommes a changé, beaucoup changé. C'est une constante chez les hommes, le changement. Elle fait quelques pas, à moitié étourdie par le chaos ambiant, confrontée à une foule dense qui s'écarte pour la contourner. Les regards sont suspicieux, non que les passants aient deviné la réelle nature de cette femme quelconque, ni même qu'ils s'étonnent de son accoutrement singulier. Il faut rivaliser d'ingéniosité et de mauvais goût pour étonner un Parisien. Mais elle vient de sortir d'une bouche d'égout. D'un geste de la main, elle tente de lisser sa robe de velours d'un violet prononcé, puis la parcourt d'un son souffle, chassant les odeurs nauséabondes qui s'y étaient incrustées. Quelques pas encore et elles se font dans la multitude, n'éveillant plus le moindre intérêt parmi ce peuple de fourmis. « Bien, » se murmure-t-elle, « essayons de nous adapter le plus rapidement possible. Nous avons du boulot en perspective. » Après quelques minutes de marche, elle parvient en bas d'un grand immeuble d'une architecture tristement rigoureuse. Des lignes droites, encore des lignes droites, et un revêtement d'une monotonie affligeante, sans aucun ornement, pas même un simple bas-relief ni une petite sculpture dont les hommes jamais avares d'afficher avec ostentation leur capacité à fixer la perfection avaient hier fait leur fierté. Les temps changent, marmonne-t-elle, il est probable que les canons de l'esthétique aussi. Enfin là, ce n'est pas une réussite. Donc, deuxième roman sélectionné, Le Time Out d'Andreas Eschbach, qui est le troisième volume d'une série. L'attente, tout comme le jour n'en finissait pas. Christopher avait l'impression qu'il resterait éternellement assis dans cette voiture, que la chaleur ambiante transformait en étuve, dans ce coin perdu du Nevada, en bordure de cette bourgade au nom improbable de Wells. Ce qui, en bon français, voulait dire « puits ». L'ironie ne lui échappait pas. Un mouvement attira son regard, mais ce n'était qu'un chien maigre et pitoyable qui se faufilait d'ombre en ombre, flairant les poubelles. De temps à autre, il tournait la tête dans leur direction, la truffe frémissante, comme s'il devinait que quatre hommes et un adolescent de 17 ans l'observaient depuis la camionnette grise, garée le long du trottoir. Nul ne parlait. Chacun gardait ses forces pour respirer, transpirer, rester en vie. Christophe saisit la bouteille d'eau dont le contenu tiède et éventé ne rafraîchissait plus depuis longtemps. « Ce n'était pas une bonne idée, murmure-t-il. » Troisième sélection, donc Régis Godin, « Le sang des sept rois » aux éditions de La Talente.
Alors je préviens tout de suite, il s'agit du quatrième tome d'un roman fleuve, on pourrait dire. Donc il va sûrement vous manquer des éléments, mais ce n'est pas grave. Cette fois-ci, l'équipage qui venait à sa rencontre ne semblait pas si bien gardé, et il attendit le dernier moment pour s'écarter du chemin empierré. Il gravit la pente en quelques bonds, se percha sur un petit promontoire boisé. Six soldats en armes devançaient un carrosse bardé de fer tiré par quatre chevaux. Six autres gardes fermaient la marche. Probablement un transport d'impôts, un prélat quelconque. Un poney blanc, attaché à l'arrière de la voiture, attisa la curiosité d'Orville. Il voulut en apprendre un peu plus et décentra sa clairvoyance pour la faire descendre le long de la pente, se coulant entre troncs et rochers. Orville n'aurait su dire pourquoi il ne brûla pas comme la moitié de la montagne. Tout, autour de lui, s'embrasa en un instant, jusqu'à faire rougir la pierre et volatiliser les chaînes. Il se leva dans un décor lunaire, ramassa son sac et se mit à courir dans l'épaisse fumée âcre qui étouffait le jour. Alors qu'il se sauvait à toutes jambes, l'incompréhensible brasier le suivait dans sa fuite, explosant la montagne en milliers d'éclairs. Celui qui l'attaquait ne pouvait être qu'un mage. Un mage surpuissant. Orville réfléchit aussi vite qu'il bondissait pour échapper au déluge de feu. Bon sang, mais que ferait un mage dans une telle situation, sinon brûler comme une poignée d'herbes sèches dans les feux de l'enfer? Holdaric, comment Holdaric s'en sortirait-il? Orville sentait la chaleur démentielle fuir de son corps et s'enfoncer dans le socle rocheux de la montagne. Par quel réflexe? Ses vêtements roustissaient par endroits, là où il n'aurait dû subsister que des plus fines cendres, il restait lui-même intact et traversait le brasier sans dommage. Alors qu'un énorme être s'abattait derrière lui dans un grondement de fin du monde, Orville se souvint subitement d'un détail de sa courte et désagréable formation. Son sabre, le métal dans lequel un mage peut se cacher. Tout en bondissant sur un rocher en contrebas, Orville décentra sa clairvoyance et l'enfonça dans l'acier noir de sa lame. L'intérieur en était sombre et froid, comme ce qu'on imagine du fond de l'océan, une cave aveugle aux murs mous élastiques. Alors que ses sens d'humain lui indiquaient que l'attaque avait cessé, sa clairvoyance semblait comme éteinte, ralentie et ankylosée, perdue dans l'univers sans fin du métal de son arme. Il courut des lieux à flanc de montagne avant de redescendre sur la voie d'école, prudemment. Un torrent coulait en contrebas et Orville identifia un endroit abrité où il avait jadis fait halte avec un soldat qu'il avait réquisitionné, un dénommé Lag. Orville s'allongea et se concentra sur sa clairvoyance qui errait dans l'espace sans fin de l'arme. Ne parvenant pas à en trouver la sortie, Orville la souffla comme une mouche une chandelle, puis la fit réapparaître dans son propre corps. Sur ce plan-là, pour le moins, Odalric n'avait pas menti. Orville descendit jusqu'au torrent pour boire et remplir ses outres, puis il remonta sur le campement et alluma un feu après avoir amassé une bonne provision de bois mort. Il était temps maintenant de rendre visite à celui qui l'avait attaqué.
Maintenant, un extrait de Peter F. Hamilton et la Grande Route du Nord.
On change vraiment d'ambiance, là. Et c'est un extrait qui se situe un peu au début du tome 2. Au moment où ils franchissent un portail pour aller de la Terre sur une autre planète qui s'appelle Sainte-Libra. N'oubliez pas de lever les yeux quand vous traverserez, les gars. C'était le meilleur conseil qu'Angela pouvait leur donner. Le plus sincère aussi. Et ils l'écoutèrent, bien sûr, car elle avait tout fait pour devenir un membre à part entière de l'escouade de Paresh. Le grand jour était arrivé, et elle était vraiment l'une d'entre eux à présent. 7h du matin, issue de la Légion de la GE, le corps expéditionnaire géogénétique de Sainte-Libra devait se tenir prêt à être transporté. Chacun avait son kit ET pour environnement tropical. 7h25, démarrage des véhicules et vérification des systèmes. 7h30, mise en branle du convoi et de son escorte. Passage par le portail de Sainte-Libra, direction aéroport de Highcastle. Pont aérien prévu pour 17h, heure locale. Avec la DH, tout était toujours planifié à la minute près. À 7h30 pile, Angela était assise dans le premier des 10 vieux minibus noirs qui quittaient tranquillement la base pour rallier le portail. Le caporal Paresh Evitz était installé à côté d'elle, tandis que le soldat Atio conduisait. Ils descendirent la colline et s'engagèrent sur Kingsway, l'axe principal du dernier mile, exactement comme la dernière fois, 16 jours plus tôt. Pour Angela, c'était le bon vieux temps, à condition de faire abstraction de la berline noire qui roulait devant eux et dans laquelle était installé le colonel Vance Elston.
Alors en fait,
Olivier Paquet pour l'esprit du Melkin.
Alors en fait, comme j'ai lu toute la trilogie, j'ai choisi un extrait de la mort du Melkin, mais ça vaut quand même. À la fois danseur et sculpteur, l'homme aux mains d'étoiles se connectait à la totalité des relations humaines dont il avait connaissance. Il ne s'intéressait pas au contenu des échanges. Le message n'avait aucune importance, mais à l'extraordinaire constellation que les individus construisaient autour d'eux pour communiquer. Par quelle stratégie étrange, certains si proches s'évitaient, alors qu'ils essayaient désespérément de joindre d'autres, déjà noyés, dans une masse de contacts. Ismaël repérait les soleils, et les satellites, et les étoiles, et les trous noirs, ceux qui irradiaient et ceux qui perdaient les gens approchant d'eux. Ils étaient forts, faibles, fragiles et sublimes. Impossible de les juger. Aucune relation n'a de modèle à atteindre. Juste cette sensation avide, ce besoin de voir ce qui est toujours obscur. Lever le voile sur la matière même de notre humanité et en rendre compte, en construire une trace. Alors là, on va un petit peu changer voilà. Le monde.
Terry Pratchett et Stephen Baxter pour La Longue Terre, aux éditions de La Talente.
L'unique librairie de Richmond West, 10, exulte à chaque vente réalisée auprès des futurs pionniers de passage. Des livres, tous imprimés sur du papier. La technologie des arbres morts. Des informations qui, convenablement entreposées, dureront des millénaires et s'empilent. On devrait vanter ses atouts sur un panneau publicitaire Songe un frais Leveling 3. S'il n'en tenait qu'à lui, tous les ouvrages jamais rédigés seraient conservés précieusement. Au moins un exemplaire de chaque serait relié en peau de mouton et enluminé par des moines, mieux par des religieuses nues pour obéir à un penchant tout à fait personnel. Or, voilà qu'est donnée l'occasion à l'humanité, espère-t-il, de revenir dans le giron de la bibliothèque. Il jubile. L'électronique ne s'est pas encore imposée dans les nouveaux mondes, n'est-ce pas ? Où il est, votre Internet ? Ah, et Google ? Et le vieux Kindle de ta mère ? Et ton iPad 25 ? Qu'est-il advenu de Wikipizza ? Ils l'appellent toujours ainsi, en signe de dédain. Très peu de gens s'en rendent compte. Ils se sont tous envolés, hommes de peu de foi. Tous ces joujoux et gadgets à la mode gisent au fond des tiroirs. Leur écran mort comme les yeux d'un cadavre, abandonné.
Et nous avons vraiment un immense plaisir à vous annoncer le nom du lauréat, Olivier Paquet, pour la trilogie du Melkin.
C'est une maladie sexuellement transmissible, il fallait le savoir.
Oui. Bien. Bon.
Moi, je l'ai reçu de Jean-Marc Ligny, et après, je l'ai donné à Gérard Klein, je crois. Non. Si, mais pour. Oui.
Quelle chance.
Bon. tu vois, mais finalement, c'est rigolo.
On ne peut pas le savoir.
pour Eiffelheim.
Bien, donc déjà, je remercie le jury de Julia Vallanger et la Fondation de France qui soutient le prix. Juste un petit mot sur les autres, juste parce qu'il y a Karim Barouka et Régis Gonin pour parler des Français, parce que remercier Pratchett, juste parce que ce soit, je suis content, parce que Karim Barouka a eu aussi le prix, le Bakin, mais je suis content qu'un livre un peu humoristique soit dans une sélection de prix parmi d'autres, je trouvais que c'était une bonne chose, et aussi parce que Régis Gonin, j'ai lu certains de ses romans, c'est quand même intéressant de voir un auteur qui, pour son premier roman, fait quelque chose d'aussi ambitieux, 7 volumes. Courage aussi à l'éditeur, 7 volumes. Enfin, bref. Donc, juste un mot aussi pour ces auteurs-là. Bien, par quoi je commence ? Par la fin, c'est-à-dire 3 volumes, 6 ans de boulot quand même. Alors, ce que je voudrais remercier, il y a plusieurs gens que je voudrais remercier. D'une part, mon éditeur, l'Atalante, dans l'ensemble, c'est-à-dire toute l'équipe, je pense à Soledad, je pense à Denis de Trace pour le numérique, Solé, on pense jamais aux OTC. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Nicolas les correcteurs, et puis Pierre aussi pour la typographie, parce que pour ceux qui ont lu la trilogie, il y a des astuces de typographie, donc c'était vraiment agréable de pouvoir travailler justement jusqu'à la typographie. C'est pas dans toutes les maisons qu'on peut faire ça. J'ai une pensée, donc évidemment je suis obligé par contrat de remercier mon éditrice Mireille Rivalan, plus sérieusement, c'était vraiment un plaisir de travailler ces tomes avec elle, parce que un éditeur, c'est plus qu'un lecteur, dans la mesure où c'est un lecteur qui va aller au fond des choses, travailler chaque phrase, choses comme ça. C'était vraiment un plaisir, et aussi je dois la remercier pour une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est à la fois nous avons des relations d'amitié depuis le temps que nous travaillons ensemble, et aussi des relations de travail saines, c'est-à-dire j'apprécie chez Mireille le fait que quand on travaille, on ne mélange pas les relations d'amitié et les relations de travail, et c'est quelque chose qui pour moi est très important. Tout de suite, j'ai aussi une pensée pour mon premier éditeur, Jacques Chambon, qui m'a permis de publier Structura Maxima. Et en plus, comme je suis en train de retravailler Structura Maxima, j'ai une double pensée pour Jacques Chambon. Une pensée pour un éditeur qui, un jour, lors d'un repas, alors qu'on discutait de Flaubert, m'a demandé si j'avais quelque chose. J'ai dit, j'ai un roman. Je ne lui ai pas expliqué ce qu'il y avait dedans. Il m'a dit juste, envoie-le-moi. Et ça, c'est quelque chose qui me reste. Et ça me permet aussi de remercier une autre personne, parce qu'il y a eu une sorte de hiatus entre Structura Maxima et Les Loups de Prague. Et je dois remercier aussi une autre personne que j'avais rencontrée lors d'un salon du livre, qui se demandait aussi pourquoi je ne republiais plus de romans, etc. Et on avait discuté, et j'avais dit j'avais un roman, et lui aussi, alors qu'il était éditeur et qu'il n'était pas susceptible de me publier, m'a juste dit « envoie-le-moi ». Ça me fait penser à Jacques Chambon. Et cette personne, c'est Xavier Mauméjean. Donc je voudrais aussi le remercier. Et j'ai un troisième mousquetaire à remercier. Un troisième. C'est Jean-Claude Dugnac, ici présent. Parce que, évidemment, on travaille depuis maintenant tellement longtemps. Ça fait combien ? 98, c'est ça ? Putain. Donc, heureusement, maintenant, j'ai d'autres personnes avec qui je travaille, qui me font travailler les textes, parce que c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Mais je remercie aussi pour une chose, c'est pour la confiance qu'il m'a toujours portée, c'est-à-dire qu'on a des projets ensemble tout à fait sains, et il n'y a rien d'ambigu dans les projets avec Jean-Claude.
Et puis, pour ce prix-là, tu n'as pas eu à faire un pari stupide
exactement.
Et à le perdre.
Voilà, donc, mais je voulais le remercier justement pour cette confiance de m'avoir engagé sur certains projets assez ambitieux. Donc, je veux lui remercier totalement. Donc, juste, il y a trois mousquetaires, il y en a un quatrième que je citerai un autre jour. Mais juste parce que je ne vais pas être trop long. Il y a deux choses que je voulais retenir pour parler de la trilogie. D'une part, c'est que ce projet, c'est surtout, je le dis à chaque fois, c'est la passion des étoiles. c'est tout un jour d'être sidéré par les étoiles. Et ça, c'est vraiment l'origine du Melkin, elle est là. C'est un jour, en pleine montagne, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pollution lumineuse, de voir vraiment toutes les étoiles. Et ça, c'est l'origine du Melkin. Et deuxième chose, pour terminer, ça sera vraiment la conclusion, c'est vraiment, j'ai créé là un univers qui me plaît vraiment. C'est-à-dire, j'ai trouvé l'univers spatial qui me convient, où je peux mêler mon atout, ma curiosité pour les cultures différentes, sur l'histoire et toutes ces choses-là. Et donc, je ne me vois pas abandonner cet univers un jour. Et donc, je continuerai, j'ai déjà continué avec l'autre roman qui est paru, qui s'appelle Bleu Argent. Et je continuerai toujours de travailler dans cet univers à travers des nouvelles ou que sais-je encore. Donc, c'est vraiment mon univers, je m'y sens bien. Et c'est bien, d'avoir, quand on est un auteur, d'avoir un univers où on se sent bien. Je vous remercie.
Merci, Olivier. Lisez Olivier Paquet, c'est un vrai auteur de...